cette période-là. Pour le coup, je pense que toutes les entreprises ont vécu une forte période d'émotion, je pense, pour l'ensemble de ses salariés, et que ça a été quelque chose qui était aussi crucial dans la gestion de crise. Et puis, l'autre point, effectivement, tu as raison. En fait, il n'y a pas d'organisation, d'écosystème sans les personnes qui les composent. Jean-François, peut-être sur ce point-là, c'est bien d'avoir ton retour d'expérience. Toi, tu as pu côtoyer pas mal de niveaux d'organisation, tester plusieurs modèles de management, tu as travaillé avec des états d'esprit même variés. Et puis, je sais que tu t'investis aussi à titre personnel pour aider des personnes qui sont peut-être plus éloignées de l'entreprise à se réinsérer. Selon ton expérience, comment finalement on peut réussir à embarquer les people dans la vision d'entreprise et dans cette culture qu'on veut véhiculer de prime abord?
Alors, bonjour à tous pour commencer. Merci de nous écouter sur ce sujet. Alors, il y a une question d'ailleurs dans celles qui nous ont été remontées qui nous interpellait sur le niveau de responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de ses managers, de ses équipes, jusqu'où aller. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a consensus dans un premier temps sur ce que l'entreprise doit contribuer à faire et ce qu'elle doit faire. Et ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est quel est le rôle du leader, quel est le rôle des managers, et jusqu'où est-il raisonnable et nécessaire d'aller pour accompagner cette... J'ai deux questions pour lancer le débat. La première, c'est la suivante. Quel est votre méchant de James Bond préféré à tous ici? Moi, j'hésite entre Elon Musk ou Bill Gates parce que jusqu'ici, on avait des entrepreneurs qui voulaient changer le monde, mais principalement dans les films d'action, d'espions, mais pas dans la presse économique ou pas dans les écoles de management. Alors, on regrette ou pas, c'est un avis personnel, partagé ou pas, que la concentration d'autant de pouvoir soit dans les mains d'individus de la sphère privée ou économique, mais force est de constater que l'entreprise, c'est une organisation absolument idéale et la meilleure. Probablement pour pouvoir rendre le monde meilleur. Ça, c'est ce dont on parle depuis le début de cet échange. C'est l'organisation la mieux placée, elle peut le faire, elle doit le faire, et en plus, en ce moment, on profite d'une sorte de mouvement où tout le monde a envie qu'elle le fasse. La deuxième question, la suivante, qui parmi vous est encore abonné à LinkedIn ici? Un peu provocateur, volontairement. Je reformule. Imaginez, vous recevez tous les jours un journal papier à votre bureau, tous les jours, tous les titres, les articles sont les mêmes. Ils utilisent 20 mots. Disruption, inspirant, data, intelligence artificielle, digital, future of work, etc. C'est exactement ce qui nous arrive aujourd'hui, à nous, à nos équipes, tous les jours. Chaque connexion sur nos réseaux sociaux, éventuellement même les réseaux sociaux de l'entreprise, professionnelle. Des informations en flux de plus en plus massif, difficile à trier, difficile à comprendre. Notre premier rôle à nous, donc, leader, manager, c'est de faire en sorte que nos équipes n'aient pas d'efforts à faire, d'efforts importants à faire pour comprendre nos intentions. Et c'est ce que le Covid nous a aussi montré, c'est qu'on a eu, à de nombreuses reprises, finalement, à rappeler un certain nombre de choses extrêmement simples, comme où en est la santé de l'entreprise, qui doit revenir au bureau, dans quelles conditions. Donc finalement, la communication interne, qui n'est pas un truc moderne, nouveau, prend une part extrêmement importante dans ces périodes-là. Pardon Arnaud, tu voulais poser une question.
Ah non, je disais, en fait, ce que tu remontes, c'est que finalement, l'entreprise doit se rendre visible. Je me disais, c'est peut-être pas mal si toi, Guillaume, tu as un exemple à donner sur une de tes interventions qui allait dans ce sens-là, puisque c'est ton domaine de prédilection. C'est sûrement une problématique que tu as eu à gérer pour certains clients. Est-ce qu'il y a un constat que c'est un constat que tu partages? Tu auras un retour d'expérience, peut-être, avec une mesure d'impact sur ce sujet-là?
Écoute, sur la transformation, effectivement, et l'impact, en tout cas sur les salariés et sur les équipes, c'est clair qu'aujourd'hui c'est une attente forte. Et moi, pour tout à l'heure, je parlais d'un des leaders de l'immobilier, Icade, pour le pas le citer. On voit bien qu'il y avait une vraie, en tout cas, à partir du moment où la raison d'être avait été posée, il y avait une attente en tout cas de tous les collaborateurs pour eux-mêmes devenir, c'est-à-dire partie prenante de ce projet de l'entreprise et eux-mêmes s'approprier cette part de la raison d'être. Et ça, je crois que c'est hyper important. Tout à l'heure, dans ce que disait Jean-François, c'était de savoir si finalement, aujourd'hui, est-ce qu'on a encore des entrepreneurs qui voulaient changer le monde. En tout cas, ils disent tous qu'ils veulent changer le monde. Mais je crois que le sujet, c'est aussi que les collaborateurs, les salariés partagent ce projet-là et ont envie de le faire. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça marche quand les collaborateurs sont les premiers réalisateurs, ceux qui mettent en œuvre la raison d'être. Nous, on travaille aussi le groupe Yves Rocher, quand Yves Rocher te donne comme mission de reconnecter les Français et ses consommateurs à la nature, c'est quelque chose qui doit embarquer ces équipes et faire en sorte que ce soit dans les magasins ou que ce soit même dans les fonctions support de l'entreprise, chacun se dise qu'il contribue à réaliser cette grande promesse, on va dire, de l'entreprise de façon très concrète et opérationnelle. Et juste que, moi, pour aller de façon très concrète, hein, la direction de l'audit et du contrôle des risques devient un acteur majeur de la mise en œuvre de la raison d'être. Et les collaborateurs de cette entité le sont aussi parce que ils ont contribué à la façonner, parce que eux-mêmes se sont donné des objectifs pour la réaliser, et donc deviennent à la fois les meilleurs ambassadeurs, mais aussi les meilleurs acteurs de sa mise en œuvre.
Ok, oh, merci.
Non, parce que c'est vrai, hein, notre gros challenge, c'est de faire en sorte de passer d'un management hiérarchique et de l'autorité à un management par l'appropriation. Donc ça ne veut pas dire que l'autorité, le sens de la hiérarchie, n'est pas nécessaire pour, dans certains cas, aller vite et de façon extrêmement, on va dire, directive sur des situations de crise. Covid, c'est l'exemple. On n'a pas discuté 10 ans de savoir si on fait une cellule de crise ou si c'est grave ou pas grave. En revanche, pour beaucoup d'actions quotidiennes, du management, du développement, de l'interaction client et également collaborateur, le fait que tout le monde s'approprie non pas sa mission, mais le sens de sa mission, c'est extrêmement important. Alors, je suis peut-être mal passé pour en parler, parce que moi, je fais partie d'une génération qui a un peu aveuglément parfois rempli sa mission, et sa mission lui suffisait. Aujourd'hui, ce qu'attendent, en tout cas ce qu'on constate nous, ce qu'attendent nos équipes, c'est un peu différent. Déjà, elles attendent que le sens s'exprime avec vérité et sincérité. On a donné quelques exemples tout à l'heure. Il y a très très beau, très très belle raison d'être de très très belle société. Comment ça se traduit en interne? Parce que finalement, c'est animé par des personnages odieux qui sont des techniciens du sujet et qui finalement déploient de façon assez mécanique et cet outil pour en faire finalement une nouvelle méthode de management, ou bien c'est quelque chose qui, quand ils se rasent le matin en se levant, les anime. Moi, je les connais pas, donc je saurais pas répondre. Mais je crois que ce qui est attendu beaucoup par nos équipes, c'est cette sincérité dans les activités de conseil, par exemple, que nous dirigeons. Il est assez fréquent d'avoir des sujets tabous. Qu'est-ce qui se passe en cas d'intercontrat? Qu'est-ce qui se passe au sujet de la mobilité géographique? Qu'est-ce qui se passe en cas de proposition de recrutement d'un client, etc. Ce sont des choses, en fait, maintenant, je crois, qu'on est capable d'aborder, même très tôt dans la carrière de nos consultants, de façon extrêmement transparente. Donc la vérité, la sincérité, la transparence, pour moi, en tout cas, en termes de leadership, d'embarquement des équipes, sont réellement des tendances de fond pour nous aider à construire cette appropriation. Ensuite, je crois que si j'ai un retour d'expérience personnelle à partager aujourd'hui, c'est le suivant. Très souvent, ce qui nous empêche ces mutations, ces transformations, c'est la peur de changer, par exemple de perdre de l'autorité en donnant de l'appropriation, un peu plus d'appropriation aux équipes. Ça donne cette peur, elle donne quand même beaucoup d'informations, elle en dit beaucoup sur la vision du monde, la différence de vision du monde entre les générations. Ce que veulent nos employés, pour la plupart, en particulier les nouvelles générations, mais pas que, c'est de l'expérience, par exemple. On va attendre qu'on leur offre, on engage de l'appropriation par l'expérience, c'est-à-dire ne pas avoir peur de laisser des responsabilités, ne pas avoir peur, on parlait des réseaux d'alumni tout à l'heure, oui, ne pas avoir peur d'engager les gens à, non pas les encourager à partir, non, mais par contre les accueillir à revenir. Moi, j'ai 48 ans, de mon temps, on quittait rarement une entreprise, et quand on la quittait, c'était assez peu fréquent d'avoir l'idée d'y revenir. En tout cas, on se serait senti un peu bizarre de ressolliciter un ancien employeur. Aujourd'hui, c'est assez fréquent, finalement, des parcours dans lesquels, indépendamment du modèle contractuel, Julien parlait tout à l'heure de l'entreprise étendue, c'est assez fréquent d'avoir un parcours dans un écosystème avec différents moments dans sa carrière. Et ça apporte beaucoup d'ouverture, beaucoup de valeur, beaucoup de sens aussi au rôle de manager. Moi, je trouve que c'est très intéressant le métier qu'on est en train de faire quand on a la chance d'avoir à guider des équipes, parce que on n'est plus uniquement rivé sur la bottom line financière, mais également en charge d'animer, d'incarner un certain nombre de valeurs et de sens pour l'entreprise. Une des choses qu'on essaie de faire pour le faciliter, c'est de donner le goût de transmettre, de donner le goût de recruter les meilleurs. et de recruter des meilleurs que soi. Ça, c'est quelque chose avec lequel je à titre personnel, j'embête beaucoup mes équipes. Je trouve que finalement, notre métier de manager consiste à être capable de recruter des personnes meilleures que nous, pour être en mesure de réellement nous-mêmes nous occuper d'un certain nombre de priorités, pouvoir être remplaçable, donc ça sécurise le fonctionnement de l'entreprise, mais ça permet aussi d'améliorer globalement et la performance opérationnelle, mais également les perspectives qu'on va donner à toutes les équipes. Partout où on a réussi à le faire, on a eu de très très bons succès. Dans tous les endroits où on n'a pas réussi à transmettre ce goût de recruter meilleur, ce goût également de transmettre à ces équipes, on est complètement coincé. Et les évolutions professionnelles, en fait, elles se font beaucoup par le mentoring. Elles se font de moins en moins par des chemins de carrière préétablis où vous rentriez il y a quelques années dans l'industrie, où vous saviez qu'après X années, vous étiez senior, après vous étiez directeur département, et puis après vous étiez éventuellement directeur ou dirigeant de BU, et ainsi de suite. C'est beaucoup plus à la fois complexe maintenant, en tout cas, et à la fois beaucoup plus ouvert aussi. Et je trouve qu'on vit une période de ce point de vue-là pour le management, en tout cas, de nos équipes particulièrement passionnante.
Ouais, parce que sur les exemples que tu donnes, pour le coup, c'est vrai qu'on l'a beaucoup vécu avec Amaris Consulting, notamment. On a vu certains de nos salariés qu'on a accompagnés vers le passage freelance et qui sont restés sur certains de nos contrats sans que ça devienne effectivement un point de friction. On a des personnes qui sont... Moi, je sais que ce que j'ai vu sur 5 ou 6 ans, je crois qu'on... Le record que j'ai, c'est une personne qui est revenue 3 fois. Qui venait pour 1 ou 2 ans, faisait une mission, partait après à l'autre bout du monde voyager pendant 1 ou 2 ans, revenait, ensuite voulait faire une expérience ailleurs et revenu encore une fois. Donc c'est des choses effectivement sur lesquelles on n'a pas fermé les portes et sur lesquelles ça a été bénéfique pour l'entreprise puisqu'on avait besoin de ces personnes-là et qu'elles apportaient de la valeur à l'entreprise.
Bon, on est bien d'accord que si tout le monde commence à faire pareil, ça ne marche pas.
Hein. C'est ça.
Il faut y être ouvert parce que dans certains cas, ça c'est vraiment extrêmement efficace. Et puis pour... finalement un certain nombre de personnes qui pourront pas nécessairement toujours accéder à un certain nombre de fonctions de responsabilité ou se projeter à très long terme, le fait de fonctionner de proche en proche d'un job à l'autre, ça peut apporter énormément de valeur qu'ils soient passés par d'autres endroits. On avait envisagé d'ailleurs lors du OVH Summit, juste avant le Covid, entre Octave Clabat, le fondateur d'OVH, et puis Olivier Wourand, le CEO de Mantou. On avait envisagé de créer une sorte de marketplace interne du travail pour faire en sorte qu'on regroupe des entreprises avec des valeurs relativement similaires dans un écosystème de jobs et se dire ben finalement si j'ai quelqu'un qui doit quitter Mantou, j'aime autant qu'il aille faire son expérience chez OVH parce que finalement je sais que chez OVH il aura l'opportunité d'aller éprouver un certain nombre de modes de fonctionnement que je ne peux pas lui offrir ici et puis de connecter un certain nombre d'entreprises. En l'occurrence, le projet était plutôt orienté souveraineté européenne pour accueillir des employés des deux entreprises ou d'entreprises variées. Pardon.
Ok, tu avais d'autres choses que tu voulais peut-être partager, Jean-François, puisqu'on arrive à midi, je vais peut-être finir
non, par... Je pense que, alors, oui, on peut parler des heures de ce sujet parce que c'est assez passionnant, mais il y a peut-être des questions sur lesquelles on peut s'attarder un peu.
Eh ben, on va regarder ça tout de suite. Est-ce que bon, a priori pour le moment il n'y en a pas, donc ben, on vous invite forcément à en poster si vous le souhaitez. Par contre, on avait un certain nombre de questions qui avaient été posées en amont de notre webinaire sur des questions que vous pourriez avoir.
Alors, oui, sur la partie talent, dans les questions que tu nous as remontées qui étaient posées avant, il y en a une que je veux bien prendre. Et pour l'illustrer par un exemple et puis le nom d'une entreprise qu'on va rencontrer bientôt. Une question était « Mental well-being, quel est le rôle de l'entreprise ?» Je trouve que c'est une très 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 bonne question parce que la sphère, le niveau d'intervention de l'entreprise dans la sphère privée en général, il est très touchy ce thème. On ne se déconnecte plus maintenant, d'une part. Donc, est-ce que c'est, par exemple, le rôle de l'entreprise que de s'assurer que les gens doivent être déconnectés? Moi, je me pose en ce moment la question de savoir si je n'imposerai pas à une partie des équipes, parce qu'après, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas tout déconnecter, mais pourquoi je ne fermerai pas une partie des boîtes aux lettres tous les week-ends pour assurer que finalement la déconnexion contrainte d'un certain nombre de nos salariés. Alors, je ne pourrais pas empêcher qu'il doit y avoir des dizaines et des dizaines de groupes WhatsApp hein, au sein de l'entreprise dont j'ignore l'existence, mais je pourrais, en tant qu'employeur, décider que j'interdis qu'on utilise les boîtes aux lettres le week-end pour des fonctions qui n'ont pas besoin de bosser le week-end. Et on avait mis en place pendant Covid une cellule de veille dont a parlé Noémie. On avait sollicité des experts, psychologues, avec des numéros, on les avait alertés, qu'ils étaient susceptibles d'être appelés par un certain nombre de nos employés. Certains d'entre eux se retrouvaient parfois sur des projets un peu loin, un peu éloignés, ou des pays étrangers, un peu éloignés de leur base familiale. Et on n'a pas la compétence, en fait, en tant qu'employeur, pour détecter les situations critiques. On peut détecter les situations un peu compliquées, mais critiques, on n'en a pas la compétence. Donc, garantir la santé mentale de ces équipes, est-ce que c'est le rôle de l'entreprise? Je dirais que l'entreprise doit contribuer à offrir un cadre pour que ce soit bien pris en compte, pardon, mais c'est surtout le rôle du manager, en son âme et conscience, d'être bienveillant par rapport à cela. Il y a une entreprise qui propose, c'est le deuxième point que je voulais aborder, qui s'appelle Moka.care, Moka.care, Care, dont c'est le sujet principal, d'aider l'entreprise à contribuer ou à bien veiller sur la santé mentale de ses employés. C'est un sujet tabou, on en parle peu, c'est un gros et grave sujet sur lequel qui peut faire partie des bonnes raisons d'être internes à poursuivre pour un employeur.